Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui Louis Tecky, architecte. Bonjour Louis.
Bonjour Myriam.
Bon, c'est vrai, on m'a dit qu'il fallait à la radio, vous voyez, mais les archis, je les tutoie. Tu es d'accord, n'est-ce pas ?
Avec plaisir.
Bon, alors, on va parler d'une actu qui est superbe d'ailleurs, qui est cette réhabilitation extraordinaire, puisque aujourd'hui, la réhabilitation dans Paris intramuros, et on va dire en Ile-de-France, c'est devenu quand même un peu le fer de lance des collectivités, des bailleurs. On ne peut pas dire des promoteurs, parce que pour l'instant, les promoteurs, on va dire qu'ils sont en train d'essayer de renouveler leur modèle. Donc, tu fais une sublime opération Avenue Parmentier. Tu peux m'en parler un petit peu, parce que c'était un ancien garage
Oui, bien sûr, c'est un ancien garage Peugeot qui se trouve au 58 Avenue Parmentier et qui a été vidé de ses voitures il y a maintenant 6 ou 7 ans.
Ouais.
Qui a été acheté par un promoteur qui s'appelle Quadral, qui est associé à un bailleur social qui s'appelle Batigère.
Oui, sinon il n'aurait pas pu faire l'opération.
Bien sûr, il va faire 100% de logements sociaux d'ailleurs, mais voilà, ils sont associés pour ça. Et qui a pendant 2 ou 3 ans occupé ce garage avec du logement d'urgence, donc une opération transitoire qui nous
c'était
a permis pendant ce temps...
C'était une obligation donnée par la ville ? C'est la ville qui vous a demandé de répondre
accord,
à ses besoins ?
Non, ça c'était un accord trouvé entre la ville et l'opérateur pour éviter que le logement soit que soit vide, qu'il y ait du squat, et puis pour répondre à un besoin évident qu'on connaît tous. Et donc ça a été cette opération de transition, mais nous concernant, ça a commencé par un concours d'architecture sur invitation organisé par Quadral, la ville et l'EPF qui portaient le foncier, et avec un concours qui laissait les portes ouvertes, c'est-à-dire qu'on pouvait proposer une reconstruction, proposer une réhabilitation.
Carrément.
Il n'y avait pas encore cette fixation sur la réhabilitation,
d'accord,
qui aujourd'hui nous semble évident, mais au moment du concours en 2018, on était encore
dans une période
de transition.
Ouais. Mais il y a quand même des problèmes de désamiantage, parce que c'est un immeuble des années 60.
C'est un immeuble des années 50, 60. Construit en 50, surélevé en 60. C'est un ouvrage technique. Hein. C'est une architecture sans architecte. On est à la radio, on n'a pas d'image, mais c'est un immeuble qui a une certaine beauté, qui est très technique, avec très peu de points porteurs,
on lit la fonction d'une manière évidente.
Exactement.
Ouais.
Et donc, la réponse au concours, au-delà des aspects architecturaux qu'on va aborder, il y avait un principe de réalité d'un gabarit très important qui occupait toute la parcelle.
Et
qui est en quelque sorte un droit acquis, un gabarit. Hein,
Bien sûr.
Et donc, la réhabilitation assortie d'une surélévation dans le gabarit de la fameuse bande de constructivité alignée à l'avenue Parmentier, elle donnait beaucoup plus de surface que si on démolissait pour reconstruire.
Ouais.
Voilà, donc il y a eu ce principe de réalité qui a fait que...
Mais en même temps, quand on connaît un peu l'immeuble, on se dit que ça fait un peu... j'incite tous nos amis parisiens et franciliens à aller voir, parce que tu as donné l'adresse. On a l'impression quand même que c'est un immeuble un peu fragile. Quelque part, les garde-corps en béton, très léger, très fin. On se dit, oh là là, comment il va faire pour réhabiliter ça
Oui, c'est un immeuble frugal, qu'on parle de la frugalité. C'est un immeuble construit avec une vraie économie de moyens.
Référence à Philippe
Madec. C'est un immeuble construit avec une vraie économie de moyens. Les dalles de béton, elles font 10
cm. Oui,
les voiles, ils font 10 ou 12.
Ouais.
Donc, tout est effectivement à la limite
de
la rupture.
Ouais.
Et en même temps, il y a quand même une structure importante parce qu'il fallait les porter, toutes ces bagnoles.
Ouais.
Et donc, c'est pas rien. C'est quand même une vraie quantité de béton. Voilà. Donc, je vais pas m'étendre sur les vertus de la réhabilitation.
En tout cas, on s'est,
nous, emparés du sujet avec beaucoup de gourmandise, quoi. Parce que c'est passionnant, cette solocalisation, cette modification d'usage, etc. Et on a fait des choses assez simples, c'est-à-dire qu'il y avait des rampes. Une rampe, c'est un peu compliqué à habiter, malgré ce qu'on disait Claude Parent. Donc on a cassé les rampes, ça nous a permis de créer des cours. Et puis cette parcelle qui fait 45 mètres de profondeur, qui était occupée sur toute sa profondeur sans qu'il y ait un seul espace libre. On a créé 3 cours et deux cages d'escalier, deux cages d'ascenseur, ascenseurs qui correspondaient à des demi-niveaux, puisque c'était des rampes intermédiaires qui servaient des demi-niveaux. Et on a des appartements qui sont donc toujours traversants, soit entre rue et cour, soit entre deux cours, et des situations architecturales et urbaines, évidemment, très
intéressantes. Et donc, vous avez dû surélever de trois niveaux.
Ouais.
C'est en bois, vous surélevez?
Alors, on surélève en bois, on surélève plutôt en structure mixte, bois-métal, c'est-à-dire qu'on a des poteaux et des poutres en métal et des planchers en bois. Ce qui permettait de réduire l'impact des poteaux, puisque en métal, on est beaucoup plus fin, beaucoup plus étroit. Et on a une surélévation dont les charges sont reprises...
Oui, bien sûr, sur les poteaux existants.
Non, ils sont reprises justement par une structure nouvelle qui traverse tout le parking et qui vient
carrément
se fonder elle-même. Donc, il y a une forme d'indépendance entre la structure existante
et
qui
la
a été réhabilitée, dans laquelle on installe des logements avec des charges admissibles qui sont à peu près équivalentes entre le parking et les logements. En revanche, la surélévation, elle, c'est sa propre descente de charge, sa propre fondation.
D'accord.
Et donc il y a une indépendance et effectivement une structure spécifique pour la surélévation.
Alors, outre le fait que c'est quand même passionnant, on a l'impression quand même qu'autour, les riverains se posent quand même quelques questions. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait suffisamment d'explications, de concertations parce que dans Paris, on dit, les voisins... Là, il y avait quand même un enjeu extraordinaire, parce que sinon, ça devenait un squat, ça pouvait être effectivement un bâtiment pas très bien dans son environnement, alors que là, la réhabilitation et la fonctionnalité nouvelle donnent, de l'authenticité à ce bâtiment et une certaine crédibilité. Est-ce que tu as l'impression que là-dessus, tout s'est bien passé ?
Il y a beaucoup de sujets, là. Beaucoup de pistes à explorer dans la question que tu poses. Mais la première chose, ça nous ramène à la question de la réhabilitation. Il y a évidemment un sujet... politique, un sujet qui concerne les élus qui délivrent les permis de construire. C'est plus simple d'accorder un permis de construire pour une réhabilitation que pour un permis pour un immeuble neuf qui vient remplacer rien du tout qui va forcément gêner par son volume, ses vis-à-vis, son nombre porté, etc. Alors que quand c'est existant, c'est beaucoup plus simple à porter pour une mairie. Le problème de l'existant, c'est quand on le surélève, parce que là on rajoute quand même 4 niveaux, donc on porte un peu ombre malgré tout sur les voisins. Mais il y a différentes questions qui se posent sur la question de la concertation, sur la question de l'acceptabilité par les riverains, sur des questions de société qui nous dépassent, sur peut-être un certain individualisme, un certain manque de tolérance, une fois qu'on a soi-même sa propre maison, son propre appartement et qu'on est bien chez soi, on n'a pas très envie que les autres profitent eux-mêmes d'un tel confort de vie, dans un quartier aussi agréable. Peut-être, je ne généralise pas, mais ça existe en tout cas certainement. Donc le problème de la concertation, c'est qu'elle est très difficile dans le sens où... un projet de ce type-là, et comme la plupart des projets dans Paris ou partout d'ailleurs, c'est qu'il y a une très grande négociation qui doit s'établir avec la ville, les différentes commissions, l'urbanisme, l'espace vert, etc. Et que cet ensemble-là, finalement, est censé représenter les riverains et est censé défendre aussi l'intérêt des riverains. Et qu'une réelle concertation
si
qui consisterait
avec à aller... ce qui a été fait à côté... Ouais. Qui est quand même l'immeuble qui est un peu...
Il y a un immeuble effectivement qui nous a précédé.
Parce que c'est ça aussi.
Un immeuble neuf, lui, qui effectivement remplaçait un immeuble très bas. Et qui, lui, est à R+9 en promotion immobilière. Donc, il y a aussi peut-être un peu moins de notions d'intérêt général. Qui, lui, a subi de nombreux recours et qui ont été... éteint avec un peu d'échanges économiques. Donc ça nous a pas tellement aidé parce que forcément y avait la possibilité imaginer, fantasmer, de se dire on va pouvoir faire la même chose. Notre maître d'ouvrage, il avait pas un euro à mettre là-dedans. Tous les euros qu'il avait, il devait aller dans le projet et c'était déjà compliqué à équilibrer. Donc il y a eu des recours, ça a été débouté au tribunal. tribunal, des appels, c'est monté jusqu'au Conseil d'État, et finalement, tout le monde a été débouté, et le projet, il se construit tel qu'il est prévu, sans qu'il ait été altéré. Il y a eu éventuellement un modificatif permettant de prendre en compte un sujet soulevé par un des recours qui était un peu à la marge, mais globalement, ça s'est finalement bien passé. Simplement, ça fait perdre du temps, de l'énergie,
c'est ça, combien de temps ?
De l'argent. Ça nous a fait retarder 2 ans, cette histoire.
Donc en tout, entre le moment où vous avez gagné le concours...
Le concours, il a été gagné fin 2018, les études, elles ont duré un an et demi, et le chantier, il a démarré qu'en 2021.
Voilà, Alors, je parle toujours du fait de pouvoir avoir une réflexion, une possibilité, quand c'est si long, tu vois, de se réinterroger. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ferais le même projet ? Honnêtement ?
Alors,
qu'est-ce que tu changerais si d'un coup de baguette magique on pouvait te dire tiens tu reprends le permis évidemment payé et tu fais un nouveau permis à la sauce 22-23 au lieu d'être 18 parce qu'il y a une différence énorme, non ? T'es plus la même personne. Il y a le Covid qui est passé. Il y a des enjeux environnementaux énormes.
On a eu beaucoup de chance sur ce projet parce que on avait quand même un peu des bonnes fées qui se sont penché sur le berceau, et on avait un maître d'ouvrage assez extraordinaire, c'est Sonia Landoulcy, la directrice de Quadral, qui vraiment a vu beaucoup de choses, a compris beaucoup de choses et a soutenu le projet. La ville de Paris, il y avait des équipes globalement qui ont permis de pousser beaucoup de choses, et sincèrement, par rapport même à d'autres projets qu'on peut réaliser, je ne vois pas tellement ce qu'on pourrait faire. Il y a des espaces extérieurs, on a des structures à porter, beaucoup de matériaux biosourcés. Donc on a essayé aussi de pousser les curseurs en 2018, qui sont ceux qui deviennent les standards en 2023.
Mais donc
finalement, il n'y a pas tellement de choses sur lesquelles on reviendrait. Peut-être qu'on ferait un niveau de moins, parce que plus le temps passe, moins on tolère globalement la construction.
C'est R plus 9 in fine.
On a un bâtiment R plus 6 et on lui rajoute 3 niveaux, donc c'est quand même un bâtiment important, même si l'avenue Parmentier le tolère et le règlement d'urbanisme le permettait évidemment. Mais donc il y a une hauteur importante, ça a été accepté à l'époque, peut-être que ça ne le serait pas aujourd'hui, j'en sais rien. Tout ça est une question de volonté politique aussi et de portage.
Bon, la réhabilitation, c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, ça fait quand même une grosse partie des problématiques à venir, et puis surtout maintenant et à venir, mais surtout aussi des projets, parce que quelque part aujourd'hui, la construction neuve, surtout dans Paris intramuros et même en banlieue, elle est quand même un peu plombée, non ?
Oui, ça c'est assez clair, on l'observe tous, nous les architectes on le voit bien, mais pas que nous, hein, les promoteurs, les aménageurs avant nous. Bon, y a différents sujets, il y a un sujet un peu de d'actualité qui fait qu'effectivement la construction et en particulier la promotion immobilière traverse de grandes difficultés, mais il n'y a pas que ça, il y a un sujet de fond qui consiste aussi à être beaucoup plus attentif à la ressource, à être beaucoup plus pertinent sur l'utilisation de la matière, et donc sur le fait que quand on a des choses et des structures qui existent, plutôt que de les mettre à bas pour les reconstruire, on va voir ce qu'on peut en faire et les transformer, les faire évoluer de façon plus ou moins poussée en fonction des projets, du fait qu'ils soient habités ou pas.
Louis, voilà. Je te propose, on en reparle une seconde fois, n'est-ce pas ?
Parce que
là, le temps imparti, mais à très vite, hein.
À bientôt,
chers auditeurs.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.